enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Qui veut recevoir? Waouh! Mais, acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que se passa-t-il? Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup. Il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Jusque-là, la parole de Dieu. Amen. Plus que jamais, l'Église de France et l'Église en Europe a besoin d'une nouvelle visitation du Saint-Esprit. Dans certains pays d'Amérique latine, le taux de pourcentage des croyants nés de nouveau est extrêmement élevé. En Corée, écoutez bien, en Corée aujourd'hui, on calcule qu'environ 40% de la population est réellement née de nouveau. Je ne vous dis pas 40% de la population va à l'église. 40% de la population est née de nouveau, est passée par une authentique repentance et a été visitée par Dieu. 40%. En France, nous ne sommes pas 1%. J'aimerais que nous nous rappelions que du temps de la Réforme, au XVIe siècle, entre 15 à 20% des Français avaient été touchés par l'Esprit de Dieu et soutenaient la Réforme. 15 à 20%. Lorsqu'aujourd'hui, nous regardons, il me semble que la France est en train de se déchristianiser. L'autre jour, j'entendais à ma grande peine que l'on va maintenant détruire et arracher des églises parce qu'on ne peut plus les entretenir et elles sont vides. Cela devrait nous alerter parce que pendant qu'on ferme des églises, on construit d'autres choses. Et vous et moi, nous devrions commencer à dire « Oh Dieu, aie pitié de notre pays. Oh Dieu, fais grâce à notre pays. » Non, jamais autant qu'aujourd'hui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Mon premier point, la marque du ciel dans l'Église est le Saint-Esprit. Permettez-moi de faire un tout petit peu de rappel historique avec vous. Quelques rappels de déclaration des pères de l'Église. Je vous lis quelques citations, elles ont été pour moi un baume, elles ont été pour moi un réconfort, elles ont été pour moi une joie. Des hommes qui, eh bien, continuèrent à conduire l'Église dans la période post-apostolique. Justin Martyr, 108 à 180 après Jésus-Christ. Si vous désirez, écoutez bien ce qu'il dit, si vous désirez la preuve que l'Esprit de Dieu est venu chez nous, venez donc à nos réunions et vous verrez comment les démons sont chassés et les malades guéris. Vous entendrez les gens parler les langues nouvelles et prophétiser. Ça, c'est réconfortant. Irénée, père de l'Église également, 130 à 208. De la même manière, dit-il, nous entendons dans nos églises tant de nos frères qui ont le don de prophétie, qui par le Saint-Esprit parlent diverses langues et qui, pour l'édification des autres, mettent en lumière ce qui est caché et proclament les mystères de Dieu. Tertullien, 160 à 220. Mettez au défi Marcion, Marcion était un hérétique, de vous nommer ceux qui parmi ses disciples possèdent les dons spirituels, pour l'Église primitive et pour l'Église post-apostolique, eh bien, il était important de pouvoir se référer à l'œuvre du Saint-Esprit, à la présence du Saint-Esprit, qui se manifestait autant par le fait que les démons étaient chassés, que les malades étaient guéris, que par l'exercice des dons spirituels. Écoutez ce qu'il dit. Mettez au défi, Marcion, de vous nommer ceux qui parmi ses disciples possèdent les dons spirituels. Qu'il me montre donc des prophètes qui n'ont, pas par l'entendement humain, mais par l'Esprit éternel, la capacité de prédire des choses qui doivent se produire et qui peuvent révéler les secrets cachés des cœurs. Qu'il me montre donc ceux qui peuvent chanter des psaumes et prier par l'Esprit, ceux qui sont exercés à recevoir des visions, à condition bien sûr que tout cela soit inspiré par l'Esprit. Tertullien, plus proche de nous, les Camisards, je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà lu des extraits, j'en lirai peut-être un parmi tant d'autres ce matin, je vous en avais lu à l'époque, et voilà ce que je lis. Vous savez que les Camisards, eh bien, s'étaient révoltés contre le roi Louis XIV, alors qu'il y avait eu, eh bien, l'abrogation de l'édit de Nantes, et de miracle en miracle, une troupe de 2000 hommes va résister à l'armée à l'époque la plus puissante au monde, celle du roi Louis XIV. Et voilà ce qu'ils vivaient, ces gens-là. Des hommes de l'esprit. Et on est là au XVIe siècle. Comme notre troupe était entre Nerf et Lascours de Cruvier, le frère cavalier, notre chef, eut une vision. Il était assis et il se leva soudainement en nous disant ces paroles. « Ah mon Dieu, je viens de voir en vision que le maréchal de Montrevel, qui est à Alès, vient de donner des lettres contre nous à un courrier qu'il va porter à Nîmes. » C'est écrit en vieux français, hein. Qu'on se hâte et on trouvera le courrier habillé d'une telle manière, monté sur un tel cheval et accompagné de telle et telle personne. Ça, c'est un service de renseignement efficace. Courez, hâtez-vous, vous le trouverez sur le bord du Gardon. À l'instant, trois de nos hommes montèrent à cheval, Ricard et Bourré et un autre. Bon, ça, je le fais pas exprès, mais apparemment, apparemment à l'époque, ils devaient faire équipe ensemble. D'ailleurs, c'est toujours encore, il me semble-t-il, une même équipe, hein. Ils sont remplis de Ricard et ils ressortent bourrés. Elles rencontrèrent sur le bord de la rivière, dans l'endroit marqué. Et l'homme, pardon. À l'instant, trois de nos hommes montèrent à cheval, Ricard, Bourré et un autre, et ils rencontrèrent sur le bord de la rivière, dans l'endroit marqué. Et l'homme et ceux qui étaient avec lui dans toutes les circonstances que le frère cavalier avait spécifiées, cet homme fut amené à la troupe et on le trouva chargé des lettres du maréchal de sorte que nous fûmes informés par cette admirable révélation de diverses choses dont nous nous fîmes ensuite un heureux usage. Le courrier fut renvoyé à pied. J'étais dans la troupe quand cela arriva et j'atteste ce que j'ai vu. C'est en France. C'est dans ce pays dans lequel aujourd'hui, eh bien, il y a une déchristianisation massive que des hommes avaient la révélation de l'esprit avec une précision extraordinaire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Dwight Moody. Moody au 19e siècle. Moody, prédicateur connu, prédicateur de réveil, déclare, et il déclarera ça en 1876 à l'hippodrome de New York, aujourd'hui le Madison Square Garden. Écoutez bien. Dieu a beaucoup d'enfants qui ont à peine assez de vie en eux pour survivre, mais aucune puissance pour le service. La venue du Saint-Esprit sur le croyant en vue du service est distincte et séparée de la conversion. Si ce n'est pas là ce qu'enseignent les Écritures, je suis prêt à rectifier mon propos. Je crois que nous accomplirions davantage en une semaine que nous ne le ferions en plusieurs années si seulement nous vivions tout à nouveau ce baptême. Et j'aimerais dire, frère Moody, oh que tu as raison, que tu as raison, maudit. Nous ferions certainement en une semaine ce que nous ne ferions pas tout au long d'une vie, si seulement, ce baptême de l'Esprit revenait puissamment sur l'Église de France. Et ma prière ce matin, et mon désir et ma soif, c'est que Dieu nous offre cette grâce. Je loue Dieu de ce qu'un des signes des pères de l'Église pour montrer que l'Esprit était là, était de pouvoir dire les démons sont chassés, les malades sont guéris, et j'ai la grâce et j'ai le privilège ce matin de dire nous vivons ces choses. Mais je crois que Dieu veut les donner dans une autre dimension. Nous ne pouvons pas nous contenter de ces choses, il faut aller plus loin. Deuxième point, la présence du Saint-Esprit, comme le dit Moody, est indispensable pour faire l'œuvre de Dieu. Alors que je méditais là-dessus, m'est venue une phrase. Et je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a mis dans mon cœur. Et cette phrase c'était, Samuel écoute bien, pour faire une œuvre surnaturelle, il faut de l'aide surnaturelle. Pour faire une œuvre surnaturelle, il te faut de l'aide surnaturelle. La mission que Jésus nous a confiée va au-delà de toutes les capacités humaines. Quand il dit « Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création », il nous faut plus que de la bonne volonté. Il nous faut plus que de l'éloquence. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide surnaturelle pour accomplir une mission qui, elle, est également surnaturelle. Mon frère, ma sœur, Jésus dit, et voici dans Luc 24, voici ce que j'enverrai sur vous, ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez. Il ne les a pas envoyés avant qu'ils soient remplis de la puissance d'en haut. Comprends ça, c'est important. Si tu comprends pas ça, tu vas passer ta vie à essayer d'observer la parole de Dieu sans jamais y arriver. C'est comme si quand tu voulais sauter au-dessus de la barre, eh bien on la mettait toujours un peu plus haut que ce que tu peux sauter. Tu vas te décourager. Il te faut son aide. Pour changer mon cœur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Ma propre volonté, ma propre force à elle seule ne suffit pas. Elle ne suffit pas. L'Église a négligé cela. Et aujourd'hui, dans nos vies individuelles, j'ai le sentiment que nous négligeons ça. Nous avons oublié l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons oublié l'importance du revêtement de puissance. Nous avons oublié ces choses. Nous voulons faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Nous sommes voués à l'échec. Si nous voulons voir un jour la France revenir à 15-20% de Français qui proclament Jésus de tout leur cœur, et j'ose rêver à 40%, 50% peut-être un jour, il nous faut autre chose que nos beaux discours. Il nous faut plus. Il nous faut le Saint-Esprit. Dernièrement, on m'a invité en Suisse à parler sur la croissance de l'Église et sur le réveil. Et voilà ce que j'ai dit. Je vais vous dire ce que je ne crois pas que le réveil est. Le réveil n'est pas la croissance numérique de l'Église. Le réveil n'est pas la croissance numérique. Le réveil, c'est quand le Saint-Esprit peut agir librement dans l'Église. La croissance numérique n'est pas synonyme de réveil. Vous pouvez faire grandir des églises avec de bons programmes. On peut attirer les gens avec des bons programmes. Il y a des livres aujourd'hui qui sont écrits avec toutes sortes de méthodes. On vous dit en 10 points comment faire grandir votre église. Les méthodes s'alignent les unes après les autres. On peut faire toutes sortes de choses pour plaire au peuple, pour plaire aux gens, pour que ce soit attractif. Mais ça ne veut pas dire que c'est le réveil. Le réveil, c'est autre chose. Le réveil, c'est quand la puissance de l'Esprit vient et que des hommes et des femmes commencent à pleurer sur leurs péchés, à se repentir à cause de son action. Par contre, nous sommes invités dans l'Écriture à agir comme Jésus le faisait en prêchant sa parole avec puissance et pour sa seule gloire. Et là va se passer quelque chose. Si par la grâce de Dieu nous agissons comme il le veut, en comptant sur celui qu'il nous a promis, le Saint-Esprit, alors mon frère, alors ma sœur, l'Église va croître. Mais sa croissance sera comme le fruit d'une bénédiction, celle de la présence du Saint-Esprit. Ne nous trompons pas. J'aimerais vous dire et vous déclarer quelque chose de tout mon cœur. Moi, je ne me bats pas pour que cette église soit pleine. Je ne me bats pas, bien sûr, pour qu'elle soit vide non plus. Ma seule bataille, c'est que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous. Ma seule bataille, c'est que Dieu soit honoré, que sa parole soit honorée. La conséquence, c'est que c'est plein ce matin. Mais je ne viendrai jamais faire un programme simplement pour vous plaire. Comptez sur moi. Jamais. Je ne viendrai jamais pour que, le spectacle plaise. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du compte, nous serions tous trompés. Nous voulons voir Jésus au milieu de nous. Et quand Jésus est au milieu de nous, alors la foule vient voir ce qui se passe. Mais ne nous trompons pas, ne faisons pas des efforts pour la foule. Cherchons d'abord la présence de Dieu. Et à cause de sa présence, ceux qui ne le connaissent pas le chercheront. Et ils le chercheront là où ils le trouvent. Et s'ils le trouvent ici, ils viendront. Après la division, il y a des années de cela, lorsque nous étions plus que quelques-uns, lorsque nous étions entre 30 et 40 personnes, lorsque nous étions complètement défaits, lorsque nous n'avions plus d'énergie. Moi, j'avais 18 ans. J'étais aigri. Aujourd'hui, je bénis Dieu, non seulement parce que j'ai retrouvé des frères, non seulement parce que les choses sont guéries, mais parce que Dieu a fait son œuvre. Mais j'étais aigri à l'époque à cause de la souffrance de mon père, de la souffrance de ma mère, voir des frères que j'aimais partir, etc. C'est quelque chose qui me dépassait. Nous n'avions plus de force pour sortir, plus force pour faire quoi que ce soit. Et Dieu nous avait parlé. Et nous avait montré que dans la louange, l'adoration, il serait présent. Et qu'à cause de sa présence par son esprit, alors l'Église grandirait. Et j'ai vu ces choses de mes yeux et j'en témoigne aujourd'hui. Vous êtes le résultat de ce que le Saint-Esprit a fait. Ni Papa Jean, ni moi-même, ni aucun d'entre nous dans l'équipe n'aurait pu faire cela. Nous n'avons pas en nous-mêmes la capacité de le faire. Lorsque ces choses sont arrivées, elles sont arrivées parce que le Saint-Esprit l'a fait. Christian, tu t'en souviens? Nous étions 30 à 50, Claude, je ne sais pas si tu étais déjà là. Tu étais déjà là, hein? Oui, tu étais déjà là. On pleurait. Et soudain, au bout de quelques mois, des hommes et des femmes ont commencé à venir. Et la première famille, c'était une famille qui avait 16 enfants. On avait l'impression que c'est le réveil. Et à partir de là, des hommes, des femmes ont commencé à venir. Vous venez d'où? Mais de là, comment vous êtes venus? Mais on m'a dit qu'il se passe quelque chose ici. Les gens venaient. Papa Jean avait commencé à recevoir les paroles de connaissance et les malades étaient guéris. Et les démons ont été chassés. Et la gloire de Dieu a commencé à descendre toujours plus. Aujourd'hui, nous sommes ici. Nous sommes à l'étroit ici, mais on va agrandir. On va encore faire de la place parce qu'il y en a encore qui vont venir. Pas à cause de nous, à cause de son œuvre. Mais moi, je veux une chose, que nous l'honorions pour que son œuvre continue. Pour que son œuvre continue. Seigneur, je veux la Pentecôte tout le restant de ma vie. Je veux pas la Pentecôte un jour. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Que s'est-il passé à la Pentecôte? Troisième point. Écoutez, acte 2. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Ils étaient tous dans l'étonnement. La foule se rassembla dans l'étonnement. Le principe qui s'en dégage, c'est que l'action inexplicable du Saint-Esprit est le meilleur moyen de rassembler des foules. C'est l'action du Saint-Esprit qui permet à des foules de se rassembler. Je l'ai vécu, j'ai vu ce que c'est quand le Saint-Esprit descend avec force. Jokel, est-ce que tu te souviens quand nous étions à Faillard? Claude et Martine qui sont à côté, vous vous en souvenez? Écoutez, nous n'avions là que 70 à 80 enfants. Je raccourcis parce que j'avais déjà raconté cela, mais pour ceux qui sont là pour la première fois. J'étais fatigué, c'était la Xème, c'était une fin de journée en brousse, c'est fatigant la brousse. C'était la dernière réunion, au début il y avait quasiment personne, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on est venu faire là? Et puis ensuite des enfants sont venus. J'annonce l'évangile, je fais un appel, ils lèvent tous la main. Alors intérieurement je me suis dit ils n'ont pas compris. Et Dieu me dit mais arrête de les soupçonner de pas comprendre, mais fais ce que je te dis. Non seulement tu vas prier pour eux, mais ensuite tu prieras et moi je les remplis du Saint-Esprit. Et moi je disais, mais Seigneur, je ne vais pas encore leur expliquer ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Écoutez ce que le Seigneur me dit. Tu vas leur dire de se lever. Et quand je te le dis, tu frapperas dans les mains et c'est moi qui vais descendre. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et quand tu as 70-80 petits Sénégalais qui chantent de tout leur cœur, eh bien je peux te dire, tu peux avoir des mains comme Papa Jean, voire le triple, t'as beau frapper dedans, ils n'entendent rien. On s'est mis à chanter Alléluia, Alléluia. Et je disais, Seigneur, quand? Et tout d'un coup, pendant qu'ils chantent Alléluia, le Seigneur me dit, maintenant frappe dans tes mains, je frappe dans mes mains. Et après j'étais, vous savez où j'étais après? J'étais par terre en train de pleurer dans la poussière. Ce que mes yeux ont vu et ce que mon âme a vécu ce jour-là, je ne l'oublierai jamais, jamais, jamais. Ça ne s'est plus arrêté. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Il y avait des repentances, des enfants qui hurlaient, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés. Les démons qui quittaient, Jokel était là, Claude était là, Martine était là. C'était le ciel sur la terre. C'était l'endroit le plus beau au monde. C'était le ciel ouvert. Nous avons besoin de revoir la gloire de Dieu au milieu de nous. C'est mon seul fardeau pour l'Église. C'est mon seul fardeau. C'est mon seul fardeau. L'Église primitive et sa force ne reposait pas sur ceux qui la composaient. La force de l'Église primitive ne reposait pas sur la force de ceux qui la composaient. Comprenez ce que je dis ce matin. Saisissez-le. Les sacrificateurs, les sadducéens avaient compris ça. Regardez ce qu'ils disent. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. La force de l'Église ne repose pas sur les hommes qui la composent. Nous pourrions rassembler dans ce lieu les meilleurs orateurs français et étrangers, si vous voulez. Les meilleurs musiciens au monde, la plus belle chorale du monde. Nous pourrions avoir les gens les plus capables réunis dans ce lieu. Ce n'est pas ça qui toucherait ceux qui sont perdus et qui guériraient les malades. Ne nous trompons pas d'objectif. Ne nous trompons pas. Ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes qui disent « Utilise-moi, touche-moi, remplis-moi. » Il n'a que besoin de cela. Le plus petit parmi nous, rempli du Saint-Esprit, est plus grand que le plus grand aux yeux des hommes. Le plus petit parmi nous, rempli du Saint-Esprit, est plus grand que le plus grand parmi les hommes. Frères et sœurs, ne nous trompons pas. C'est pas l'éloquence d'une prédication qui va toucher le cœur. J'en suis revenu. C'est pas l'excellence de la construction d'une prédication, même si ce n'est pas une vertu d'être fouillu, même si c'est pas une vertu d'avoir une prédication où on ne sait pas où est le commencement et la fin, bien sûr. Mais c'est pas l'excellence d'une prédication qui va toucher le cœur d'un pécheur, non. C'est pas la plus belle voix des plus beaux choristes de France qui vont toucher les cœurs. Non, c'est le Saint-Esprit. Puisse-t-il y avoir ici les plus belles voix, que Dieu soit béni, mais les voix elles seules ne suffisent pas. Puisse-t-il y avoir ici les meilleurs musiciens du monde, puisse Dieu le faire, mais ça ne suffira pas. Il faut autre chose, il faut le Saint-Esprit. Si nous avons les meilleurs musiciens du monde sans le Saint-Esprit, alors je préférerais avoir le moins bon du monde rempli du Saint-Esprit. Si nous ne comprenons pas ça, nous passons à côté de l'essentiel. Nous allons nous battre à essayer de faire l'œuvre de Dieu et à nous fatiguer. Zacharie dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Écoute bien, la puissance d'être différent vient du ciel et non pas de nos propres forces. La puissance d'être différent vient du ciel et non pas de nos propres forces. Dis ça à ton voisin. La puissance d'être différent, mon ami, elle te vient du ciel et pas de tes propres forces. Elle te vient du ciel. Quatrième point. Chacun peut et doit être revêtu de puissance. Écoutez ce que Paul dit. Qui ici peut dire « j'appartiens à Jésus » Levez la main, je vois. Ok, ça me rassure. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Lorsqu'il est parlé du temple là, le mot qui est employé pour temple dans ce texte est le même qui est employé pour parler du lieu très saint dans le tabernacle. C'est le même mot. Quand il dit vous êtes le temple, il dit pas vous êtes le parvis. Il dit même pas vous êtes le lieu saint. Il dit vous êtes le lieu très saint. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut habiter que dans le lieu très saint. Celui qui peut nous rendre très saints n'est que le Saint-Esprit. Parce que par définition, il est un Esprit Saint. Ceci dit, quand nous parlons du Saint-Esprit, j'ai parfois l'impression qu'on parle de quelque chose. Mais ce matin, je vous rappelle que le Saint-Esprit est une personne. Je vous rappelle que quand on dit l'Esprit vient en vous, en d'autres mots, on dit Dieu vient en vous. Si Dieu est en vous, il doit se passer quelque chose. Hello. Si Dieu, mon frère, si Dieu, ma sœur, est en toi, alors tu devrais avoir une vie à la hauteur de ce que Dieu fait. Arrêtons de toujours vouloir. Eh bien, descendre la base des valeurs que nous avons. Nous nivelons toujours vers le bas. Dieu, lui, veut nous attirer vers le haut. Nous, nous prenons toujours référence sur ce qui est moins bien. Dieu veut que tu prennes référence sur ce qui est mieux. Tu as besoin pour cela de l'œuvre du Saint-Esprit. Écoutez bien. C'est pas une option. C'est pas une option que je vous prêche ce matin. C'est une nécessité. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Jésus sans être revêtu comme Jésus. C'est de la folie de vouloir faire l'œuvre de Dieu sans être vêtu comme Jésus. C'est de la folie, je vous le dis ce matin. Je le dis, je le déclare, je le dis aux internautes. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu sans être vêtu comme Jésus, c'est de la folie. Toi et moi, on serait des fous si on fait ça. Parce que nous ne pouvons pas. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera... Alors on va regarder ce qu'il était le maître. Luc 4, 14 à 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Un peu plus loin, dans le même chapitre, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât pas. Moi, je rêve qu'un jour, la foule vous retienne pour que vous ne les quittiez pas. Normalement, vous auriez dû dire un amen qui soulève les plaques au-dessus de vous. Je souhaiterais que le jour vienne où les foules vous retiennent pour que vous ne les quittiez pas. Jokel, Claude, quand nous étions à Fadiout, sur l'île, on prêche l'évangile. On y était allé très décontracté, Claude. On prêche l'évangile. Jésus commence à guérir les malades. Les gens viennent. On s'est retrouvé avec une foule en moins de temps qu'il faut pour ne le dire. Alors certains vont dire, oui, mais en Afrique, il suffit que tu prêches à quelque part et tout le monde vient courir. Tu crois parce que t'es blanc, les gens viennent te voir? Tu crois qu'ils ont rien d'autre à faire? Hello? C'est parfois avoir une attitude méprisante à l'égard des frères africains. J'ai entendu ce genre de discours. Mais en Afrique, monsieur, c'est simple. Il suffit que vous jouiez un peu de guitare et que vous chantiez et tout le monde vient. Tiens, mon œil. Ça se voit que tu y étais jamais. Tu crois que nos frères africains, ils viennent à la rigueur voir quelqu'un qui se ridiculise tout seul? Oui, ça peut les amuser 5 minutes. Non, pas plus que toi et moi. Si rien ne se passe, ils ne viennent pas. Et là, les malades étaient guéris. Et les gens ont commencé à vouloir tous nous toucher. Et là, avec mon frère Claude, ça a été la panique. Parce qu'il fallait, écoutez, les gens voulaient nous retenir. On courait dans les rues. On nous emmenait les gens sur les chaises roulantes dans la rue. Là, 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 on nous appelait. Jokel, t'étais avec nous? Ah oui, tu me traduisais. Le lendemain, je dis, je retourne sur l'île. Claude, mon frère, m'a dit, jamais, on va se faire étouffer là-bas. Et il avait raison, il avait pas tort, c'était juste, il y avait réellement une telle soif. Les gens voulaient nous toucher pour être guéris, mais les gens étaient aussi guéris. Dieu fait des choses extraordinaires en Afrique. Mais aussi ici, nous l'avons entendu tout à l'heure. Jokel, viens vite raconter pour Patrick, en 2 minutes. Quand eux font comme ça, ça veut dire oui. Je parle parfois avec lui, et quand il fait... Je sais que ça veut dire oui. 2 mots.
Ok. Oui, on parle de Patrick. Patrick, c'est quelqu'un qui est dans l'église aujourd'hui, au Sénégal, et qui s'est converti parce qu'il avait un problème. Il était malade, il était fou. Fou, carrément, parce qu'il était parfois déshabillé même. Et 5 années successives où il ne dormait plus dans sa maison. Les parents étaient découragés. À l'inauguration maintenant de l'église de Mbodjen, le frère était là, Samuel était là. Et après avoir prié pour tous les malades, on était fatigués. Et puis, on rentrait. Et juste à la porte, Patrick est arrivé. Avec ses manières de folie. Et priez pour moi. Et là, Samuel était fatigué, Eric tout mieux était fatigué, j'étais là. J'ai dit, il a dit qu'il faut prier pour lui. Et là, on l'a imposé. Bon, ils étaient fatigués, ils ont tellement prié comme ça. Seigneur, guéris cet homme au nom de Jésus. Amen. Ils n'ont pas pris du temps. Et les semaines ont passé, Patrick, il revenait encore. Aujourd'hui, il est totalement guéri. Amen. Il est marié, il a des enfants. C'est lui maintenant qui est le gardien de l'église. Et s'occupe des arbres de l'église. Aujourd'hui, si vous partez au Sénégal, vous pouvez le voir.
Amen. Patrick vivait même un temps à Dakar. Il buvait l'eau des caniveaux de Dakar. Déjà, faut connaître Dakar. Les caniveaux, c'est encore autre chose. Et l'eau qui est dedans, c'est une troisième. Il buvait l'eau des caniveaux. Qu'il soit vivant, c'est un miracle. Parfois, on l'enchaînait, mettait des chaînes. Aujourd'hui, il est marié et il aime Jésus. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais vouloir faire l'œuvre de Jésus sans le revêtement qu'il avait, c'est de la folie. Il faut qu'on arrête. Frères et sœurs, il faut qu'on arrête. Non seulement quand l'Esprit est là, des signes sont là, des guérisons, les démons sont chassés. Mais la parole de Dieu est prêchée sous l'onction. Écoutez ce qui s'est passé. Pierre va prêcher la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, le malheur aujourd'hui. J'en suis. Aujourd'hui, des incroyants rentrent dans les églises, écoutent des sermons et ressortent comme ils sont rentrés. Pas touchés. Aujourd'hui, il faut gagner les gens à l'amiable. Il faut surtout pas parler du péché. Le péché, c'est démodé. Il faut ceci. On fait des sermons qui ne veulent plus rien dire. On a enlevé tout ce qui faisait la puissance de la parole de Dieu. Parce qu'on veut plaire aux hommes. Mais Paul a dit, si je plaisais aux hommes, je ne plairais plus à Dieu. Puisse Dieu faire que nous renoncions à plaire aux hommes pour plaire à Dieu. Et si nous plaisons à Dieu, alors la prédication de l'évangile sera confirmée par les signes, les miracles et les prodiges, comme nous l'entendons ce matin. Mon frère, ma sœur, arrêtons d'avoir des discours édulcorés. On n'a plus le courage de dire, tu es pécheur, et si tu continues, tu vas en enfer. On ne le dit plus. Non, on explique au pécheur que finalement, s'il a fait ça, c'est pas de sa faute, c'est parce que son père était comme ça et son arrière-grand-père. Faut arrêter. Oui, je sais qu'il y a des conséquences. Je suis conscient, je suis respectueux de ça aussi. Mais Dieu appelle péché, péché. Et ça doit amener à la repentance. Lorsque Pierre a prêché, regardez ce qui se passe. Après avoir entendu ce discours, acte 2, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Un peu plus loin, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes en une prédication. Hello! Vous ne croyez pas qu'on a besoin du Saint-Esprit? Cinquième point, et puis je conclue. Cherchez et vous trouverez. Vous ne pouvez pas ce matin vous dire « ça ne me regarde pas ». Parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est toi et c'est moi. L'église de Jésus, c'est pas seulement les murs, ni ceux qu'on construira par la suite. Ça, ces murs sont là pour abriter les pierres vivantes. L'église de Jésus-Christ, les pierres vivantes. Maman Kougloupf, c'est toi. Merci fort, Shreka. C'est vous les pierres vivantes. C'est nous les pierres vivantes qui formons l'église de Christ. Pierre dit à la foule qui écoutait, c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce que tu penses que tu fais partie de toute chair? Est-ce que chacun se sent être humain ici? Non, parce que s'il y a une plante vivante, c'est pas pour elle, mais... Sur toute chair, c'est-à-dire sur chacun d'entre nous. Jésus dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donna-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et regardez ce que les disciples firent. Après qu'il leur a dit, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais restez-vous dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Voilà ce qu'ils ont fait en attendant de recevoir. Ils louaient et bénissaient Dieu. En attendant de recevoir, puis vint la Pentecôte et ils reçurent avec puissance le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, où en es-tu après 20 ans de conversion? As-tu le même feu, le même zèle? Si c'est pas le cas, tu as besoin de revenir à la source. As-tu la même énergie? As-tu encore le désir de voir les âmes être perdues, être sauvées? Ou t'es-tu installé dans la routine chrétienne? Es-tu maintenant un de ces chrétiens dont l'Église fait partie de sa vie? Mais Christ n'est plus au centre. Es-tu de ces chrétiens qui essayent de te sanctifier par ta propre force? Je vais vous dire à quoi ça nous mène. La sanctification sans le Saint-Esprit nous mène au légalisme. La sanctification sans le Saint-Esprit nous mène au légalisme des lois et des règles. T'as le droit et t'as pas le droit, t'as le droit et t'as pas le droit. Et à la fin, tu t'en sors pas, tu t'uses et tu te détruis. Où en êtes-vous ce matin? Avez-vous encore ce désir ardent pour Jésus? Êtes-vous encore prêt à donner votre vie comme Pierre était prêt à donner la sienne? D'ailleurs, il la perdra sous Néron. On le décapitera. Avez-vous encore cela? Avez-vous encore ce feu du premier amour où vous étiez prêt à faire tout pour le Seigneur? Ou est-ce que vous vous êtes tellement confortablement installé? On peut s'habituer aux guérisons. On peut s'habituer à entendre des miracles. On peut s'habituer à voir les démons chassés. On peut s'habituer à tout. Je vais vous dire une chose. On peut être dans une église où la gloire de Dieu se manifeste et être perdu. Parce qu'on a oublié de demander la vie pour soi. La vie pour soi, tu as besoin de la vie pour toi. De la vie procède la vie. De la vie procède la vie, tu as besoin de la vie de l'esprit. C'est la seule source qui puisse constamment et bien te nourrir, t'alimenter. Elle te rend dépendante de Jésus, mais pas des hommes. Mon frère, ma sœur, je termine. Et c'est ma conclusion. Jésus est le chef et la tête de l'Église, qui est d'accord avec ça? L'Église doit être à l'image de son chef. Le seul qui puisse la rendre comme cela est celui que le chef a désigné, j'entends le Saint-Esprit. Et personne d'autre. Et nos meilleures prédications et nos sermons les mieux construits ne serviront à rien si ce n'est pas lui qui vous convainc. Si vous n'êtes que convaincu intellectuellement, vous ne tiendrez jamais. Au jour de l'épreuve, vous céderez. Au jour de la tentation, vous céderez. C'est la vie de Dieu en vous qui vous donne la capacité de résister aux assauts du diable. La vie de Dieu en vous qui vous donne la capacité de résister. Alors arrêtons de grâce de vouloir construire l'Église avec nos misérables moyens humains. Ils ne sont pas là à la hauteur de ce que le chef a prévu. Arrêtons-nous de vouloir nous sanctifier ou de sanctifier les autres autrement qu'en laissant le Saint-Esprit convaincre de péché. Arrêtons de vouloir faire l'œuvre de Jésus par nos propres forces. Nous passons pour des fous parce que c'est impossible à faire. Mais vous recevrez, si vous le croyez, si vous le cherchez, si vous en faites une priorité, si à partir d'aujourd'hui vous dites je ne me laisserai plus en paix jusqu'à ce que j'ai reçu. Dites-moi, quand est-ce la dernière fois que vous avez prié pour un malade et l'avez guéri? Quand est-ce la dernière fois que vous avez chassé des démons? Je pose ces questions non pas par provocation. Si Dieu est en vous, la gloire de Dieu doit vous accompagner. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Ce n'est pas réservé à Jokel. Ce n'est pas réservé à quelques têtes d'affiche. Dieu ne cherche pas des têtes d'affiche. Vous savez ce que Dieu cherche? C'est des cœurs ouverts pour les remplir de son esprit. Des hommes simples, des femmes simples. L'Église ne trouve pas sa force dans ceux qui la constituent, puissent-ils être les meilleurs. L'Église trouve sa force dans ce que Jésus lui a donné, le Saint-Esprit. Et si l'Église primitive ne devait pas commencer avant que le Saint-Esprit ne soit venu, comment pouvons-nous continuer sans que le Saint-Esprit soit présent? Je termine avec une citation qui m'a touché, celle de Charles Spurgeon. On l'appelait le prince des prédicateurs. Écoutez ce qu'il dit. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme des voiliers sans vent ou des chars sans chevaux. Nous fanerons comme des branches sans sève. Et nous serons aussi inutiles que des braises sans feu. Mon frère, ma sœur, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est impératif. Mon frère, ma sœur, l'Église ici a besoin du Saint-Esprit. C'est impératif. Sans lui, nous sécherons comme la branche sans sève. Sans lui, nous sommes comme un bateau avec des voiles, mais sans vent. Et même si nous soufflions tous dans nos propres voiles, ça ne servira à rien. Sans lui, nous sommes comme un char, mais sans chevaux.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.